malentendu. Chacun d'entre nous a été confronté dans sa vie à des incompréhensions. Quelquefois, ça s'arrange, on s'explique, mais d'autres fois, ça peut vous marquer et avoir des conséquences pour toute votre vie. Tenez, je vais vous raconter une anecdote qui est vraie et qui illustre ce que je viens de vous dire. Ça se passe au début du XXe siècle à New York. Beaucoup d'immigrants viennent s'y installer, et parmi eux des Juifs, qui ne supportent plus la misère et l'antisémitisme, en particulier celui de l'Empire russe. Un jour, un certain Shmuel Moshe Dassier débarque près de la Statue de la Liberté. Il ne parle que le yiddish et le russe. L'officier de l'immigration lui demande « Quel est votre nom ?» Le Juif ne comprend pas ce qu'il veut. C'est un dialogue de sourds, mais Shmuel croit deviner que l'Américain lui demande « De quelle ville venez-vous » Et avec son accent, il répond « Odassin ». Le fonctionnaire a compris « Vous vous appelez Dassin ? Alors vous signez ici ». Et voilà comment Shmuel Moshe, qui débarque d'Odessa, la ville portuaire de la mer Noire, se retrouve affublé d'une nouvelle identité avec sa femme Bertha. Shmuel est coiffeur. Avec sa femme, il s'installe dans le Connecticut, puis à New York, à Harlem. Ils ne sont pas seuls. Ils ont 8 enfants. Parmi eux, il y a Jules. Il rêve de se lancer dans une carrière artistique. Il est engagé à l'Artef, le théâtre yiddish prolétarien. Mais il se rend compte qu'il n'est pas doué pour faire l'acteur. Il se tourne vers le théâtre, puis le cinéma, et il réalise son premier film en 1942. Il s'appelle « L'agent nazi ». Entre-temps, Jules a rencontré Béatrice Launer, que tout le monde appelle Béa. C'est une violoniste de talent qui est issue d'une famille juive autrichienne. Ils se marient en 1933 et ils vont avoir 3 enfants. Le premier d'entre eux naît le 5 novembre 1938. On lui donne comme premier prénom Joseph. Mais Béa insiste pour que le second prénom ce soit Ira. Elle veut rendre ainsi hommage à son idole, Ira Gershwin, dont le véritable nom est Israël Gershovitch. Ira, c'est le frère aîné, le parolier de George Gershwin, qui vient de mourir en 1937. Béa apprend à Joseph, qui devient tout de suite Joe, à jouer des instruments comme la guitare et le banjo, et Joe étudie dans une école juive. Mais en 1949, les choses se gâtent pour Jules Dassin. Le sénateur Joseph McCarthy lance une chasse aux sorcières. Or, Jules est dénoncé par un membre du Parti communiste américain. Jules y avait adhéré quelques années, mais il avait claqué la porte quand les nazis et les soviétiques avaient signé un accord juste avant le début de la guerre en 1939. Mais McCarthy est impitoyable, comme Charlie Chaplin, comme Leonard Bernstein, comme Orson Welles et beaucoup d'autres. Jules Dassin se retrouve sur une liste noire. Il n'a plus le droit de tourner aux États-Unis. La famille Dassin part pour l'Europe. Joe est ballotté entre la Suisse, l'Italie et la France. Il passe son bac à Grenoble, mais il a la nostalgie de l'Amérique. Il y retourne pour étudier, il obtient un doctorat en ethnologie. Mais l'armée américaine ne veut pas de lui. Il est réformé, car il souffre d'un souffle au cœur. Il revient en France en 1963. Il fait toutes sortes de choses. Il écrit des articles pour Playboy, pour The New Yorker. Il est un animateur à Radio Luxembourg, qui plus tard deviendra RTL. Il joue des petits rôles dans des films de son père. Et en 1968, Jules Dassin associe Joe à un documentaire dont le titre original est en hébreu. C'est « Amilchama ala Shalom », la guerre pour la paix. Il est consacré à la guerre des 6 jours, et c'est Joe qui est le narrateur de ce film. Joe Dassin fait une belle rencontre en 1963. Elle s'appelle Maryse Massiera. Il épouse en 1966. En septembre 1973, naît leur fils, Joshua. C'est un prématuré, mais il meurt au bout de 5 jours. Ce sera un traumatisme terrible pour le couple. Mais quelques années auparavant, comme son grand-père, Joe va connaître un malentendu qui va entraîner une conséquence définitive pour le reste de sa vie. Maryse a vite repéré que Joe a une belle voix. Un jour, elle l'enregistre en cachette en train de chanter un air de folk américain. Et elle veut faire une surprise pour l'anniversaire de Joe. Elle veut lui offrir un disque, un seul exemplaire avec cette chanson. Pour cela, elle prend contact avec une amie qu'elle connaît depuis le pensionnat. Elle s'appelle Catherine Régnier. Elle travaille pour CBS, la compagnie américaine de disques qui vient de s'installer à Paris. Le directeur artistique de CBS tombe sous le charme de la voix de Joe. Il doit venir nous voir. Maryse transmet l'invitation à Joe qui refuse. Je n'y connais rien, il n'en est pas question. Elle revient à la charge une dizaine de fois. Et pour faire plaisir à Maryse, Joe accepte le rendez-vous. CBS lui fait signer un contrat en 1964. Il devient ainsi le premier chanteur francophone à être engagé par cette société qui diffuse entre autres les albums de Barbara Streisand. Les premiers disques de Joe Dassin passent inaperçus. Il obtient ses premiers succès en 1968 avec Siffler sur la colline et surtout en 1969 avec Les Champs-Élysées. Joe est plébiscité par les auditeurs et par les lecteurs de Salut les copains qui le classent à la première place d'un référendum. La carrière de Joe Dassin, qui a pour impresario Charles Marouani, s'envole. Il va de succès en succès, enchaîne galas, émissions de télévision, radio et l'Olympia. Il marche très fort aussi à l'étranger. Mais il est victime d'un premier infarctus en 1969. D'autres suivront. En 1974, Joe Dassin sort un nouvel album, Si tu t'appelles Mélancolie. Sur la face B du 33 tours, il chante une chanson, Le service militaire. C'est l'adaptation en français d'un grand succès israélien, Natati Lahayav, Je lui ai donné ma vie. C'est une chanson de Danny Sanderson qui fait partie du groupe Kaveret. Avec cette chanson, Kaveret arrive à la 7e place de l'Eurovision en 1974. En 1975, Joe Dassin chante L'été indien. Ce sera le plus grand succès de sa carrière. Il vend plus d'un million de disques en France et trois autres à travers le monde. Mais Joe a envie de changer d'air dans tous les sens du terme. Côté vie privée, Joe et Maryse divorcent en 1977. Il a en effet rencontré Christine Delvaux. Ils se marient en 1978 et auront deux fils, Jonathan et Julien. Mais ils se séparent au bout de deux ans. Joe Dassin enregistre un disque uniquement en anglais. Il ne se vend pas. Et son dernier spectacle à l'Olympia déconcerte ses fans qui ne retrouvent pas ses tubes habituels, mais plutôt un spectacle composé uniquement de chansons en anglais. Ça passe pas. Et comme toujours, il était habillé en blanc. C'était la femme de Henri Salvador qui lui avait donné ce conseil. En réalité, Joe Dassin aimerait retourner aux États-Unis et s'installer avec ses deux fils dans un ranch. Mais il va de plus en plus mal. En 1980, il est sur scène à Cannes. Il fait à nouveau un infarctus. Il annule sa tournée d'été. Mais il n'écoute pas son médecin qui lui ordonne « Reposez-vous, ne bougez pas de chez vous ». Il décide de prendre des vacances avec sa mère et ses deux fils à Tahiti. Un jour, c'est le 20 août 1980, la famille décide d'aller au restaurant. Mais Joe s'écroule en plein repas. « Y a-t-il un médecin ici ?» hurle Béa. Il y a une seule ambulance à Papété. Elle arrive 45 minutes après avoir été appelée. Joe est admis aux urgences. Il vit encore, mais son cœur va s'arrêter de battre au bout de quelques minutes. Joe Dassin rêvait de retourner définitivement aux États-Unis. Il est enterré le 27 août 1980 au cimetière juif Beth Olam de Hollywood. Il avait à peine 41 ans.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.
On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne. Mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle. Il y a un an.
On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs